Comment prendre soin de sa mémoire? Repos, loisirs, sport, alimentation, les quatre piliers de la mémoire. Dormez, rêvassez, l'importance du rien faire. Nous avons déjà abordé le rôle primordial du sommeil pour stocker nos souvenirs dans les mémoires à long terme. Cela résulte d'une discussion la nuit entre plusieurs zones du cerveau, le cortex cérébral, le thalamus et l'hippocampe. Leurs neurones s'activent ou se désactivent de manière synchronisée. Les scènes marquantes de la journée sont rejouées, le replay hippocampique déjà expliqué précédemment, et des souvenirs anciens sont réactivés. En effet, notre mémoire fonctionne principalement par association. La nuit, elle relie les événements nouveaux à nos souvenirs et connaissances passées. Souvenez-vous, au début de ce livre audio, je vous parlais de la toile du souvenir avec l'hippocampe trônant en son centre qui encodait votre soirée d'anthologie. Eh bien, la nuit suivante, des fils supplémentaires s'y sont ajoutés, ancrant encore plus solidement votre souvenir. Nuit après nuit, vos souvenirs récents, comme vos apprentissages, du moins les plus importants, sont ainsi progressivement transférés vers vos mémoires à long terme. D'un autre côté, le cerveau effectue la nuit un grand nettoyage dans nos synapses, supprimant les connexions inutiles. Revenues à leur état initial, elles serviront ainsi le lendemain à mémoriser de nouveaux savoirs ou événements. Le sommeil joue aussi un troisième rôle essentiel, la gestion de nos émotions. En temps normal, la charge émotionnelle de nos souvenirs s'atténue de nuit en nuit. Nous digérons progressivement nos émotions fortes. Ainsi, un deuil devient de moins en moins douloureux avec le temps et nos passions s'émoussent, si elles ne sont pas renforcées jour après jour. Le sommeil nous sert donc autant à bien mémoriser qu'à bien oublier. Dormir, comme respirer, boire ou manger, personne ne peut s'en passer, pas même les animaux. Alors vous imaginez bien qu'il est tout bonnement impossible que vous échappiez à cette règle immuable. Les conséquences dramatiques du manque de sommeil sur notre santé en général et sur les troubles de la mémoire et de l'apprentissage en particulier sont prouvées depuis longtemps. S'il est vital pour tous de préserver la qualité et la quantité de son sommeil, en cas d'insomnie ou d'apnée du sommeil notamment, c'est encore plus vrai pour les enfants et les adolescents. Au fait de leur capacité d'apprentissage et de leur croissance, ils ont besoin de dormir plus longtemps que les adultes. Certes, vous allez batailler un peu plus avec les petits pour les mettre au lit plus tôt dans la semaine, mais quand vous arrêterez de hurler sur vos ados le dimanche matin parce qu'il faut se lever pour aller au marché ou bruncher avec mémé, l'harmonie familiale y gagnera. De toute façon, ils auraient fait la gueule s'ils étaient venus. Et pendant ce temps-là, vos ados consolideront leurs acquis et leurs os.
On a tendance à l'oublier, justement, mais bien dormir la nuit se prépare le jour. Faire de l'activité physique dans la journée, réduire son stress, manger équilibré, éviter les toxiques et surtout les écrans le soir, se coucher dès que vous sentez que c'est le bon moment, supprimer toutes les sources de bruit ou de lumière de votre chambre, voilà les fondamentaux d'une vraie bonne nuit. Si malgré cela, vous ne dormez pas bien, allez consulter sans attendre. Il existe des solutions. Concernant le nombre d'heures de sommeil, il n'y a pas de règle absolue. Cela dépend de chacun et varie selon votre activité, votre forme et votre âge. Comptez le nombre d'heures de sommeil, sieste comprise, lors de votre deuxième semaine de vacances, pourra vous aider à avoir une bonne estimation de votre besoin quotidien. Connaître son sommeil, son corps et ses besoins est primordial. Vous ne conduiriez pas une voiture sur l'autoroute pendant des heures sans tableau de bord pour voir l'état de ses jauges. À chacun ses nuits, donc, et à chacun ses siestes. La micro-sieste consiste à s'asseoir confortablement avec une bouteille d'eau ou un trousseau de clés à la main. Dès que l'on s'endort, la main se relâche, l'objet tombe et nous réveille. On pratiquait déjà cette technique au Moyen-Âge avec un objet en métal dans la main. Cette courte phase d'endormissement, 3 à 12 minutes en général, suffit à amorcer les processus de mémorisation et d'apprentissage. Elle redonne aussi un bon coup de boost. À votre réveil, vous êtes plein d'énergie et grâce au repos, vous possédez de nouveau une attention accrue. Mais si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à faire de vraies siestes, au sens noble du terme. Plus on dort, plus on mémorise. Pour une sieste en matinée, si comme moi, vous vous levez très tôt, vous pouvez pousser jusqu'à 1h30, le temps de faire un cycle de sommeil complet. L'après-midi, 45 minutes à 1 heure maximum, pour ne pas perturber votre nuit de sommeil ou décaler votre heure d'endormissement le soir. Une découverte scientifique récente ravira les plus contemplatifs. La journée, le meilleur moyen d'entretenir sa mémoire est de ne rien faire. C'est contre-intuitif, mais quand notre cerveau semble off, il travaille en fait énormément. À la grande différence des ordinateurs, il ne s'éteint jamais. Même quand on ne pense à rien, même quand on dort, même quand on est inconscient, même dans le coma, notre cerveau fonctionne. Sans que cela atteigne notre conscience, il assure des tâches de fond qui, comme vos appareils électroniques, consomment beaucoup. L'activité électrique le long de nos neurones, l'activité chimique dans les synapses et, comme nous l'a fait découvrir Michel, nos vésicules synaptiques, ces poches contenant les neurotransmetteurs, consomment une énergie folle, même quand les neurones sont au repos.
D'ailleurs, 95% de l'énergie distribuée au cerveau servent à ce mode par défaut contre 5% seulement pour nos cogitations conscientes. Quand je me creuse les méninges pour écrire ce livre, c'est comme quand je textote. Ce n'est pas ça qui épuise la batterie, non. Ce qui consomme, c'est la recherche du réseau, les applis actives, les mises à jour, bref, tout ce qui fait que mon téléphone marche sans que je m'en rende compte. Sans ces tâches de fond, impossible d'envoyer un texto. Sans le mode par défaut de mon cerveau, impossible d'écrire ce livre et impossible de bien mémoriser. Alors quand vos journées sont bien chargées, essayez de vous accorder 5 minutes de pause toutes les demi-heures.
De plus, et je pense que tout le monde en a fait l'expérience, on trouve souvent la solution à un problème ou le nom qu'on avait sur le bout de la langue quand on arrête d'y penser ou quand on fait une pause café. La mémoire associative fonctionne à plein régime grâce au mode par défaut du cerveau. En effet, il s'enclenche quand vous rêvassez durant la journée, c'est-à-dire quand vous ne concentrez pas votre attention sur une chose précise, quand vous laissez aller venir vos pensées sans effort. Comme le sommeil, le mode par défaut consolide les traces mnésiques importantes et les relie à des informations qu'il fait remonter du fin fond de vos mémoires à long terme. D'ailleurs, si vous avez, comme moi, une excellente mémoire épisodique, ou comme Michel qui a une excellente mémoire sémantique, il a fait médecine tout de même, vous vous souviendrez que le replay hippocampique du rat dans son couloir débutait dès la fin de son parcours pour trouver de la nourriture, alors qu'il était encore éveillé. En dehors de toute volonté consciente, votre cerveau stocke et récupère des souvenirs par association. Ce qui lui permet au passage de résoudre de nombreux problèmes, à l'insu de mon plein gré, comme disaient les guignols de l'info. C'est aussi de façon inconsciente que fonctionne le mieux la créativité. Je ne compte pas le nombre de fois où je suis sorti de la salle de bain avec un triomphant « je crois que j'ai eu une solution pour notre problème ». Le mode par défaut explore des connexions et des associations à tout va. Il tente des choses qui fonctionnent ou pas. De la créativité pour mes spectacles aux nouvelles idées concrètes pour ma vie, je sais que je dois choyer l'ennui pour y accéder. Alors un bon conseil. Lorsque vous êtes en train d'attendre dans les transports en commun, dans une salle d'attente ou dans la file de la caisse de votre supermarché, ne sortez pas votre smartphone. Ce mauvais réflexe vous empêche de vous ennuyer correctement.
Prends du recul, ça ira mieux après une bonne nuit de sommeil. Ne sont pas seulement des conseils agaçants quand on est débordé. Le repos, sommeil la nuit et sieste la journée, favorise la mémorisation, l'apprentissage et donc la résolution de nos problèmes, que nous soyons chercheurs en physique quantique ou simplement à la recherche du nom de cette actrice qui a joué. Vous savez, dans ce film-là, là où il y avait un grand blond avec une chaussure noire, c'est quoi, Jeanne ? Ah non, Mireille d'Arc. Oui, oh, ça va, j'aurais très bien pu vous citer toutes les réactions chimiques du cycle de Krebs, mais nos éditrices m'ont demandé des exemples parlants. Maintenant que j'y pense, elles m'ont aussi demandé de m'adresser aux plus jeunes, parce que la mémoire n'est pas qu'une question de vieux, loin de là. Alors, je reprends mon exemple. Le repos favorise la mémorisation et la résolution inconsciente de nos problèmes, que nous soyons data scientists ou simplement à la recherche du nom de cette actrice trans qui joue dans, vous savez, cette série où elle est amoureuse de Zendaya alias Roux. Oui, c'est ça, dans Euphoria, c'est ça. Hunter Schaefer.
C'est amusant, parce que nos éditrices m'ont demandé de ne pas m'adresser qu'aux jeunes qui font des études. La mémoire, c'est à tout âge. Bref, Si vous ne deviez retenir qu'une seule chose, la voici. Plus on dort la nuit et plus on rêvasse la journée, mieux on mémorise et mieux on apprend. Elle n'est pas belle, la vie ? D'autant que le deuxième pilier de la mémoire n'est pas non plus désagréable. Il s'agit de vos loisirs et de votre vie sociale. Plus vous vous ouvrez au monde et aux autres, plus vous vous cultivez, plus vous échangez et plus votre mémoire résistera plus tard à la vieillesse.
Cultivez-vous et cultivez le goût des autres.
La mémoire ne s'use que si on ne s'en sert pas, et c'est valable à tout âge. Et pour la travailler, pas besoin de se forcer à apprendre des poésies par cœur ou à faire des mots croisés force 6, sauf si vous aimez ça. Car le secret est là. Faites ce que vous aimez. Voilà le meilleur moyen d'être assidu dans une activité. Variez aussi les plaisirs. Privilégiez la curiosité et les nouvelles expériences. Devenir expert en mots fléchés, comme je vous l'expliquais avec ma grand-mère, ne fera de vous qu'un expert en mots fléchés. Idem si vous en êtes au 10520e niveau de Candy Crush. Lire, écrire, chanter, écouter de la musique, peindre, tricoter, jouer à des jeux de société, faire des puzzles, du jardinage ou la tournée des expos et des musées, toutes les activités ludiques, créatives ou culturelles, à condition qu'elles soient régulières et variées, renforcent la mémoire de travail, mais aussi vos mémoires à long terme. Faites ce que vous aimez, mais essayez aussi de faire ce que vous croyez ne pas aimer. Un peu comme la nourriture. Ne dites pas « j'aime pas » avant d'avoir essayé. Vous pensez qu'aller à un spectacle de danse classique n'est pas fait pour vous ? Alors faites-le une fois. Non seulement vous pourriez avoir la bonne surprise d'apprécier, mais quoi qu'il arrive, vous serez sorti de votre zone de confort cognitif et ça, votre cerveau va adorer. Dans tous les cas, vous aurez fait une expérience et lorsque vous direz peut-être que vous n'aimez pas ce genre de spectacle, vous serez capable de dire pourquoi. Toutes ces activités entretiennent la qualité du codage, du stockage et la récupération des informations. L'idée étant de faire marcher votre cerveau, de le surprendre et ainsi d'entretenir votre plasticité cérébrale pour, au final, retarder l'apparition des troubles de la mémoire liés à l'âge. Comme nous l'avons vu avec Michel dans le chapitre sur la réserve cognitive, le nec plus ultra pour entretenir sa mémoire est de mêler vos loisirs à une vie sociale épanouie. Famille, amis, connaissances que vous croisez plus ou moins souvent, plus vous vous intéressez aux autres, à leur vie, plus vous racontez la vôtre, plus vous utilisez votre mémoire sans même vous en apercevoir. Et n'oubliez pas, nous sommes des êtres sociaux. D'ailleurs, notre mémoire aussi possède une forte composante sociale. Elle est le ciment de nos amitiés, mais aussi de nos histoires de famille, voire de notre communauté au sens large. Pour les plus âgés d'entre vous, le contact avec les plus jeunes, vos petits-enfants par exemple, ou ceux de vos amis, est un formidable moyen de stimuler votre cerveau. Et pour les plus jeunes, l'inverse fonctionne aussi. Vous apprendrez beaucoup de l'expérience des plus anciens. Et rappelez-vous, en amitié comme en famille, ce n'est pas la quantité qui compte, mais la qualité.
Move your body. Il n'y a pas que le sport dans la vie. Aïe, 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 je vous vois déjà froncer le nez à la lecture de ce poncif. Le sport, c'est bon pour la santé. Et pourtant, si vous saviez que l'activité physique est sûrement le remède miracle à la plupart de vos maux, problèmes de sommeil, de surpoids, de dos, de stress et donc de santé en général, et de votre mémoire en particulier, ne cherchez pas. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a rien inventé de mieux pour garder notre cerveau en forme et le prémunir de l'âge et des maladies. Le principe de base, le voici. L'activité physique fait du bien à votre système cardiovasculaire. Non seulement votre cœur se muscle, mais il envoie aussi plus de sang dans les vaisseaux, ce qui permet de préserver leur souplesse et donc de limiter les risques d'accident vasculaire cérébral. Mieux irrigué, le cerveau est mieux oxygéné et mieux alimenté en molécules indispensables à son bon fonctionnement. Cela stimule également la sécrétion d'hormones et de facteurs de croissance impliqués dans la plasticité synaptique et la création de nouveaux neurones dans l'hippocampe. Qui dit nouveaux neurones dit nouveaux vaisseaux sanguins, donc meilleure irrigation du cerveau. Le cercle vertueux est enclenché. Je ne compte plus les études qui montrent les effets bénéfiques de l'activité physique sur la mémoire, les capacités cognitives et même les résultats scolaires. En 2009, une méta-analyse de 16 études, incluant 160 000 personnes, soulignait que la pratique régulière d'une activité physique pouvait diminuer les risques d'Alzheimer jusqu'à 45%. Mais pas la peine de courir un marathon pour entretenir sa santé, son cerveau et sa mémoire. La première des activités à pratiquer, et la plus efficace, est la marche. À chaque impact du talon sur le sol, vous propulsez le sang et la lymphe vers votre cerveau, favorisant ainsi son alimentation mais aussi l'évacuation des déchets. Tout le monde a entendu parler de la règle des 10 000 pas par jour. Si ce chiffre rond est sujet à caution, contrairement à ce qu'on pense, il ne correspond à aucune étude scientifique ni recommandation officielle, un minimum de 7 500 pas par jour semble nécessaire pour ressentir les bénéfices sur la santé. Pas évident à caser dans sa journée, mais il existe quelques petits trucs pour y arriver. Vous garer plus loin, ou descendre du bus ou du métro quelques arrêts avant votre destination. Ne plus jamais prendre l'ascenseur. Passez vos coups de fil en marchant autour de chez vous ou, mesure radicale, adoptez un chien et le sortir. Mais la marche, c'est un peu l'apéro des recommandations. Le plat de résistance, et la recommandation la plus importante, la voilà. Pratiquez 2h30 à 5h d'effort à intensité modérée par semaine, ou si vous préférez, 30 à 60 minutes par jour, 5 jours par semaine. Pour savoir à quoi cela correspond, pas besoin d'appareils sophistiqués. Peu importe votre âge ou l'activité, marche, course, vélo, natation, vous êtes à la bonne fréquence cardiaque quand vous êtes un peu essoufflé, c'est-à-dire que vous pouvez encore parler, mais pas chanter. À ce moment-là, votre effort cardiovasculaire est optimum pour bénéficier de tous les avantages liés à l'activité physique. Un tip pour mixer les 7500 pas et l'activité à intensité modérée, la marche rapide. Évidemment, si vous préférez le vélo, pas de problème. Une étude de l'Université de Genève de 2020 a montré qu'après 30 minutes de vélo à intensité modérée, la mémorisation était plus forte qu'avant l'effort. Grâce à l'imagerie cérébrale, les chercheurs ont même constaté un lien entre la vitesse de pédalage et l'activation de l'hippocampe. Plus l'effort est intense, mieux on mémorise ensuite. Un résultat confirmé en 2021 par des chercheurs suédois dans une méta-analyse de 13 études scientifiques. Chez les 18-35 ans, une seule séance d'activité physique, peu importe laquelle, d'intensité modérée à élevée, d'une durée comprise entre 2 minutes et 1 heure, puis suivie d'un bref temps de récupération, a des effets positifs sur l'attention, la concentration, la mémorisation et l'apprentissage jusqu'à 2 heures après l'effort. Évidemment, plus on pratique régulièrement, plus les effets du sport sur la mémoire sont pérennes. Pour le dessert, ajoutez quelques minutes de renforcement musculaire, comme des abdos ou des squats. Et encore une fois, les règles de bon sens s'appliquent. En premier lieu, privilégiez la régularité à l'intensité. Choisissez donc une activité qui vous plaît, seul moyen d'être assidu. Ensuite, dites-vous bien qu'il n'est jamais trop tard. D'aussi loin que vous partiez, aussi âgé que vous soyez, faire un peu d'activité physique n'est jamais vain. En revanche, on adapte sa pratique à son âge et à sa forme. Un claquage au premier jogging est le meilleur moyen de ne jamais recommencer. Sans compter qu'activité physique ne signifie pas sport. Le ménage, le jardinage, courir après ses enfants, danser en soirée, ça compte aussi.